L'agité du...
Loupé.
Avec Marie.
Et Claire.
Avec Marie.
Et Claire.
Et avec Marie.
Et Claire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'agité du local. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde.
Et aujourd'hui, on va parler des épreuves anticipées du bac qui sont annulées en mars. Les spécialités seront évaluées en contrôle continu. Bonne ou mauvaise chose pour les élèves, Claire est allée leur poser la question. La ville de Laval candidate pour le label Capitale de la Culture en 2022. Quels enjeux et quels projets? Réponse avec Bruno Fléchard, adjoint aux cultures pour tous à la mairie de Laval. Et notre rendez-vous lecture du lundi laisse la part belle aujourd'hui encore à la littérature jeunesse.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, 170 soignants touchés par la Covid-19 à l'hôpital de Mayenne.
Et ce depuis le mois de septembre, ce sont les chiffres du syndicat Force Ouvrière cité par France Bleu Mayenne qui met en cause des services submergés et un manque de personnel au centre hospitalier de Nord-Mayenne. Beaucoup de personnel touché et donc 25% d'absentéisme en plus à cause de la Covid. Autre souci pointé par les salariés et le syndicat, le brassage de patients contaminés et de patients non-Covid. Si ça s'est produit, c'est un accident, répond la direction.
Une courbe de l'épidémie toujours élevée.
170,6 cas sont comptabilisés pour 100 000 habitants en Mayenne et 7,9% des tests à la Covid-19 sont positifs. 106 personnes sont aujourd'hui hospitalisées, dont 9 en réanimation.
Pour aider à la vaccination, devenez volontaire au centre d'appel.
Centre qui permet en Mayenne depuis le 14 janvier de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Il a été pris d'assaut avec plus de 35 000 appels et 5 000 rendez-vous fixés. Cette plateforme installée dans les locaux du centre d'incendie et de secours de Laval est actuellement assurée par 24 agents volontaires du conseil départemental. Pour assurer la continuité de leur mission, un appel est lancé aux bénévoles pour assurer une permanence de quelques heures en semaine ou le samedi matin. Pour participer, rendez-vous sur la plateforme en ligne accessible sur lamayenne.fr.
Et attention, la neige et le verglas causent plusieurs accidents ce matin.
Et oui Claire, les pompiers ont été appelés au moins une quinzaine de fois dans la matinée si ce n'est plus, notamment pour un accident au lieu dit Tivoli à Changé. La départementale 104 est toujours coupée dans les deux sens. À la Baconnière sur la D31, deux conducteurs ont perdu le contrôle de leur véhicule. Blessés, ils ont été transportés à l'hôpital de Laval.
Et 100 000 euros de bons d'achat téléchargés en une semaine.
Ce sont les chiffres encourageants des premiers bons d'achat numériques lancés par Laval Agglomération en décembre. Par mois sont attribués 5 bons d'achat de 5 euros par tranche de 25 euros pour tout habitant équipé d'un smartphone tout simplement, à utiliser chez les commerçants locaux pour soutenir leur activité. En décembre, l'opération a généré plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires.
Et on connaît les premiers noms du prochain Prestival Info.
La 10e édition du Festival de Journalisme se tiendra du 8 au 30 novembre 2021, évidemment à Château-Gontier, avec pour thème « Quel journalisme pour demain ?» seront présents notamment Carole Gessler, Marie-Laure Angry et deux journalistes d'investigation, Jean-Pierre Canet et Martin Boudot.
Une conférence organisée par le Mémorial est reportée.
Carole Lemay ne viendra pas à Laval ce samedi à l'invitation du Mémorial des déportés. Cette anthropologue qui travaille depuis plus de 30 ans sur la Shoah devait donner une conférence à 16h aux archives départementales. En raison des conditions sanitaires, elle est reportée à une date ultérieure.
Et le foot, troisième match sans victoire pour les Tangos.
Le stade Lavallois a fait match nul 0-0 contre Saint-Brieuc vendredi soir. Les Lavallois sont désormais 8e de national à 13 points du leader. Prochain match ce dimanche en Coupe de France à Angers-NDC, une équipe qui évolue en Régional 1.
Suspense toujours présent pour le Vendée Globe.
À deux jours de l'arrivée, Charlie Dalin est repassé devant Louis Burton et Boris Herman. Tous les trois ne sont qu'à 75 000 nautiques d'écart. Maxime Sorel, lui, reste 10e. Une arrivée au Sable d'Olonne qui se fera sans public, Covid oblige. Une décision préfectorale dénoncée par Olivier Richefoux, le président du conseil départemental de la Mayenne. Il met en cause des conditions excessives imposées pour l'arrivée des marins. Et puis Claire, on parle des premières épreuves du bac qui ont été annulées. Comment réagissent les lycéens?
Et oui, j'étais vendredi à la sortie du lycée Douanier-Rousseau à Laval pour avoir la réaction des jeunes suite à la déclaration de Jean-Michel Blanquer. En effet, le ministre de l'Éducation a déclaré jeudi que les épreuves de spécialité du baccalauréat se feront via le contrôle continu et non plus par une épreuve finale. J'ai d'abord interrogé Noémie en seconde qui a passé son brevet donc en contrôle continu.
Voilà, par rapport au confinement, je pouvais pas passer mon brevet. On s'attendait à un contrôle continu,
même si on savait déjà que le contrôle continu allait quand même compter de base dans le brevet, on était au courant qu'il y avait un contrôle continu, mais on pensait pas qu'il y aurait que du contrôle continu et qu'il n'y aura pas d'épreuve écrite. Donc c'est vrai qu'après, il y en a, moi je sais que dans mon collège, il y en a, ils s'y attendaient pas du tout. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas eu leur brevet parce qu'ils n'ont pas travaillé toute l'année. Ça les a pénalisés forcément. Pour moi, oui, parce que j'ai travaillé toute l'année, heureusement. Donc oui, finalement, moi, je trouve ça plus intéressant qu'on le continue.
Pour Ninon, Mariama et Thaïs, en première, ce n'est pas le même avis.
Y a du bien et du moins bien parce que en fait là c'est faut pas se louper tout au long de l'année, c'est donc le contrôle continu, on peut vraiment pas se rater parce qu'à la fin il y a pas l'épreuve justement qui valide nos compétences. Donc il y a du bon et vraiment du moins bon. Ça nous prépare pas aux épreuves à venir et là en fait on y va un peu on sait pas ce qui nous attend l'année prochaine, on a quand même le bac. On n'aura pas de phase test, on ne pourra pas tester. Donc là, vu que c'est au contrôle continu, l'épreuve du bac, elle ne fait pas peur. C'est juste là, avec toutes les organisations un peu compliquées des établissements scolaires, on ne sait pas si on aura les capacités sur l'épreuve finale, en fait. Là, on ne sait pas avec quelles compétences on va entrer dans la vie, on ne sait pas tout ça. C'est bien plus compliqué.
Moi, je pense que c'est positif parce que en étant distanciel, je ne sais pas si on fera tout le programme. Et si on avait eu des épreuves, ça aurait été pareil dans toute la France et on aurait eu tout le programme. Donc on serait peut-être tombé sur des choses qu'on n'a pas apprises. Alors que là, c'est vraiment nos profs qui vont faire nos contrôles, donc on va être évalué que sur ce qu'on sait.
L'épreuve, c'est stressant et tout, et on sait qu'on va l'avoir obligatoirement. Le contrôle continu, on a tendance à l'oublier. Donc d'un côté, c'est positif, genre ça nous met moins de stress et de pression toute l'année. Mais en même temps, du coup, on se met moins la pression et on est moins performant.
Mathéo est en terminale spé physique et mathématiques, Roman en spé maths et sciences éco-sociales et Célia en spé maths et SES. Chacun y voit des avantages et des inconvénients.
Je trouve que c'est pas une super idée d'avoir annulé les épreuves comme ça. Déjà, ça nous prépare pas trop aux épreuves qu'on va passer après quand on va être à la fac et en école. Ils nous rabâchent depuis quand même quelques semaines qu'ils veulent pas les décaler, ils vont garder ça comme ça. Et là, ils nous annoncent d'un coup que non, c'est fini, ils arrêtent. Et ils nous disent des trucs, ensuite ils nous disent d'autres choses. On sait plus qui croit en fait. Juste qu'ils nous écoutent, qu'ils les décalent et voilà, je pense que tout le monde aurait été content. Ça m'aurait vraiment plu que pouvoir passer les épreuves. Je suis un peu du style. Je bosse pas trop en cours d'année et je mets tout sur les épreuves et ouais non du coup ça me convient pas du tout.
Non moi justement je préfère bosser toute l'année et pas avoir les épreuves que je trouve que c'est mieux, c'est plus valorisant pour ceux qui travaillent toute l'année. C'est un peu annulé au dernier moment, ils auraient pu nous prévenir un peu parce que là depuis le début de l'année on se presse, on fait chapitre sur chapitre tout le temps. Au final pour rien, parce qu'au final y a rien au bout. Et on comprend pas toujours tout, au final on se tape des mauvaises notes à des contrôles. Pour au final rien à voir après, je trouve ça un peu embêtant. Après ça m'arrange que ce soit annulé parce que du coup justement je comprenais pas trop tout.
Je pense que les épreuves elles ont été annulées, ça a libéré un peu les profs et même nous par rapport au programme qui était chargé. Mais en même temps, comme disait Mathéo, ça nous prépare pas pour nos partiels ou nos épreuves dans les années futures parce qu'on a eu aucune épreuve à part le brevet en troisième quoi.
En conclusion, le contrôle continu reste avantageux pour la plupart des étudiants. Cela leur permet d'avoir une meilleure note, cependant ça ne les prépare pas forcément aux épreuves qu'ils auront s'ils continuent leurs études en faculté ou dans de grandes écoles.
Ce qui est évidemment souvent le cas, notamment pour les lycéens que tu as interrogés, puisqu'ils sont dans des filières générales, même si ça n'existe plus en tant que tel avec cette réforme. On voit bien par rapport à leurs options. Options qui justement donc seront, on l'a bien compris, en contrôle continu. Laval, qui deviendrait la capitale de la culture en 2022, ce n'est pas fait, mais en tout cas un dossier a été déposé en ce sens. On vous explique tout ça d'ici quelques minutes, juste après avoir écouté David Zinke avec son morceau « Oh my ». We caught fire in a hurricane, but no one spoke of the love you gave. When one man's pocket is another man's grave, then all that's left is a golden cage. Well, oh my days, carry me home on this peaceful way. Oh my, save my place, I'll be home when I see your face. Life is love, and love is pain. When the night turns older
see her tonight. If I went with you to war tonight.
Vous êtes bien sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. Laval, bientôt capitale de la culture en 2022, c'est en tout cas la volonté de la municipalité et des acteurs de la culture qui ont aidé à monter le dossier. Un label souhaité pour sa visibilité bien sûr et son coup de pouce financier. Explication avec Bruno Fléchard, adjoint aux cultures pour tous à la mairie de Laval.
Alors le label, oui, c'est un nouveau label qui a été mis en place par le ministère de la Culture et qui est une sorte d'appel d'offres pour désigner une ville sur le territoire français qui sera du 1er janvier 2022 au 31 décembre la capitale de la française de la culture. Donc voilà, c'est un vrai... pour nous, c'est déjà à la clé un financement important puisque le lauréat bénéficiera d'une aide, d'une subvention de 1 million, à hauteur d'un million d'euros, ce qui n'est pas rien, et qui est un vrai moteur, comme on dit, c'est l'argent est le nerf de la guerre, c'est un vrai moteur pour mettre en place des projets.
Et alors, quels sont les critères pour justement être éligible et peut-être devenir la capitale française de la culture 2022?
Alors, il y a un cahier des charges qui est très précis, hein, je vais pas tout vous détailler, mais les grandes lignes, c'est quand même... déjà de se singulariser au niveau national, d'être aussi, d'avoir un aspect participatif avec les habitants, d'avoir l'accessibilité à tous les personnes handicapées, d'avoir un rayonnement international, d'avoir aussi une ouverture sur les arts numériques. Donc il y a un certain nombre de critères très précis, et puis aussi fédérer les acteurs du territoire. Donc... pour nous, ça n'a fait ni une ni deux. C'est vraiment ce label arrive à point nommé à un moment où, premièrement, nous avons un maire qui est très attaché à la culture et qui défend et qui est même devant pour mettre les dossiers en place. Donc, il a été très réactif sur ce dispositif en se disant que 2022 sera sans doute l'année post-Covid, on l'espère tous, et que la culture sera un des leviers importants pour recréer de la vie, du lien social parmi les habitants. Donc monsieur le maire s'est saisi de ce label, nous a mobilisé sur le projet, et avec les services, nous avons très rapidement, puisque le dispositif a été mis en place mi-octobre, nous nous sommes saisis tout début novembre, donc il y avait quasiment 6 semaines pour monter le dossier, et l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les services du spectacle vivant, de la lecture publique, l'enseignement musical ou du patrimoine, ont été tous très réactifs à proposer des choses pour cette année 2022.
Puisque justement, comment ça marche, c'est aussi dans ce dossier, il faut donner des projets pour la suite, ou justement montrer ce qui a déjà été fait, peut-être les deux même?
Un peu des deux. C'est-à-dire que l'idée du projet 2022, c'est de souder un petit peu l'existant, puisqu'il y a déjà des traditions de coopération qui sont assez fortes entre les acteurs culturels du territoire, mais aller peut-être sur une année qui révèle les choses et qui les consolide. Donc là, il y a déjà sur des projets sur des résidences d'artistes, chacun est allé sur ses idées. Beaucoup de résidences artistes sur des bus qui iraient dans les quartiers, à porter assez haut la voix de nos atouts locaux que sont les artistes le Douanier Rousseau ou Ambroise Paré ou alors encore Alfred Jarry, Alain Gerbeau, les personnages qui identifient la ville de Laval de façon inéluctable, et le côté numérique qui nous a quasiment indiqué de fait Laval Virtual, qui qui nous permet de répondre à deux points forts du dispositif. Un, le côté international, puisqu'on nous demande un rayonnement international et que Laval Virtual n'a aucune preuve à apporter ou rien à prouver sur ce sujet. Ils sont vraiment sur cette dimension-là. Et puis, sur un côté rencontre entre le numérique, le virtuel et les disciplines artistiques habituelles, où là aussi, nous avons envie de nous positionner de façon très forte.
Donc oui, il y a eu vraiment ces deux aspects, un peu l'aspect historique et puis tout l'aspect autour du numérique de manière générale avec Laval Virtual. C'est voilà. Ça que vous avez mis en avant en tout cas dans le dossier, peut-être d'autres choses aussi.
On s'inspire beaucoup du douanier Rousseau qui à son époque était quelqu'un totalement avant-gardiste. Hein. Je ne crois pas me tromper en disant que c'était un des premiers peintres à avoir peint la Tour Eiffel à l'époque, qui maintenant se retrouve quasiment le symbole de la France de par le monde. Et le douanier Rousseau était quelqu'un qui a bouleversé les codes à l'époque. Et nous, faisons très vite le parallèle avec Laval Virtual, qui aussi est à la pointe aujourd'hui d'une imagerie nouvelle, de la réalité virtuelle. Et voilà, on fait ce parallèle, on aime bien, et je pense que c'est un des leviers du dispositif, c'est de faire le lien entre notre patrimoine, le passé, et les technologies de l'avenir, et de voir comment ces deux extrêmes peuvent se rencontrer, parfois de façon très heureuse, et on mettra évidemment l'accent sur cette rencontre heureuse entre la tradition et l'avenir.
Donc vous disiez, ça c'est déjà tout ce qui a été plus ou moins mis en place, mais ça peut aussi concerner des projets à venir. Quels sont-ils? Est-ce qu'il y en a certains auxquels vous pensez en particulier?
Il y a un fil conducteur hein, qui sera sur toute l'année 2022 et qui se terminera autour des Lumières de Noël, avec ce côté participatif dans les quartiers qui s'articulera autour de résidences d'artistes dans les quartiers, dans 10 quartiers de Laval. Donc il y a une espèce de fil conducteur qui devrait amener tous les habitants du quartier à se saisir de ce projet-là pour aboutir à un final en décembre 2022 autour de la fête des Lumières qui sera autour des Lumières de Noël. Et puis je voudrais dire aussi que les autres acteurs importants que sont les festivals, je pense au Festival du Premier Roman, je pense au Chaînon Manquant, je pense aux Trois Éléphants, je pense, j'espère qu'on n'oublie personne, tous les festivals sont aussi mobilisés sur cette année-là en disant qu'ils allaient la colorer aux couleurs du label Capitale de la Culture, Capitale Française de la Culture ou des Cultures, et puis colorer leur programmation au regard de ce projet-là. Donc on peut s'enorgueillir de cet enthousiasme qui a mobilisé tous les acteurs culturels sur ce projet. Sans doute que la période qui est assez morose a aidé chacun à plonger dans des rêves et des perspectives. Ça fait tellement de bien de parler de projet en ce moment qu'on a réussi vraiment à déposer un dossier qui donne envie, qui a de l'allure, qui est très très dynamique, etc. Il y a l'inauguration du nouveau pôle culturel au Crédit Foncier, qui sera aussi un événement important. Il y a le dossier fourmille d'idées. Donc j'espère que nous aurons l'occasion d'en mettre en place la grande partie. Et là, on attend avec impatience le premier cap qui sera début février. Où il y a une présélection de 10 dossiers et le choix final sera fait au niveau national tout début mars.
Donc début mars, on saura si Laval est retenu pour ce label.
Absolument, absolument. Et puis là, donc début mars, il sera temps pour nous de rentrer dans le vif du sujet, de concrétiser et de mettre en place déjà les festivités pour l'année 2022.
Donc quel est l'intérêt? Pourquoi justement multiplier les efforts pour cette candidature en tout cas?
Ah ben l'intérêt, il est de mettre Laval au cœur du territoire national. Laval souffre un petit peu de cette situation géographique qui est très proche de régions qui ont des identités fortes, que ce soit la Normandie ou la Bretagne. Et Laval est une terre aussi de gens discrets qui hésitent souvent à mettre leurs atouts en avant. Je suis mayenné de souche et je comprends très bien comment la modestie ou l'humilité des mayennais est ici perçue comme un atout, mais parfois comme peut-être un manque de visibilité par d'autres. Et là, cette année-là, l'année 2022, c'est dire aujourd'hui tout ce qui est de l'ordre de l'humilité des mayennais et de la discrétion, mérite d'être vue sur le plan national parce qu'il y a une vraie richesse sur le territoire et une diversité qui mérite d'être mise en valeur.
Une visibilité bienvenue aussi, vous le disiez, en ce moment où on sait que la culture est vraiment à la peine. Donc c'était aussi la volonté, j'imagine, des élus de mettre un peu l'accent là-dessus, sur la culture, justement, en 2022.
Oui, je ne voudrais pas souligner la crise qui, effectivement, est une période extrêmement pénible. Mais l'importance de la culture est une réalité qui est au-delà de cette crise-là. Monsieur le maire considère la culture comme un des leviers principaux du rayonnement de la ville. Et derrière lui, il y a toute une équipe, que ce soit le premier adjoint, l'adjoint en finance, qui sont tous convaincus que la culture est un support privilégié pour faire rayonner un territoire. Donc au-delà de la ville de Laval, d'ailleurs c'est bien sûr Laval Agglomération, et qui devra bénéficier de ce label. Et quand bien même, par malheur, nous n'aurions pas le label, il restera tout ce travail des choses importantes, puisqu'on reste de toute façon sur la même ligne, de dire que la culture est un support important. Les acteurs du territoire sont là, travaillent déjà beaucoup, et on s'efforcera de les faire travailler plus ensemble encore sur un rayonnement plus important. Et voilà, il y a des enjeux qui dépassent de toute façon à la fois la crise du Covid et qui dépasse aussi ce simple label national qui nous fera, j'espère, rayonner de façon flagrante pendant toute l'année 2022.
Et donc oui, il y aura aussi en fait des actions ou des projets qui seront menés avec les communes de l'agglomération.
Oui. Alors le dossier a été porté par la ville de Laval au regard des délais très courts, mais il est évident pour nous que sur ce type d'opération, le rayonnement dépasse la simple ville, mais concerne tout le territoire. Donc voilà, le projet concernera évidemment Laval Agglo dans sa totalité. Il y a 29 villes qui ont déposé un dossier en fin décembre, ce qui n'est pas tant que ça. Nous, au départ, on pensait qu'il y aurait beaucoup plus. Et on sait, a priori, d'après les retours qu'on peut avoir de façon informelle, qu'il y en a certains déjà qui ne sont pas totalement éligibles. Donc voilà, ça nous met dans une course de 20 candidats sur laquelle on croit totalement à toutes nos chances. Dans le cahier des charges, c'est de mémoire entre 20 et 200 000 habitants ou 40 et 200 000 habitants. Il y a une fourchette assez précise. 31 mars, annonce de la ville lauréate par la ministre de la Culture. Donc du 22 au 26 mars, il y a les auditions des villes candidates et la présélection, c'est début février.
Donc ça veut dire que vous aurez en fait un autre dossier après si vous êtes sélectionné début février pour le mois de mars.
Un autre dossier et une audition devant le jury à Paris. Alors on est vraiment très content de la première étape. Le dossier plaît beaucoup. Il est arrivé à la Direction régionale des affaires culturelles qui participe à la présélection et qui a été vraiment emballé par notre candidature. Voilà, donc on est assez content de la première étape. Maintenant, on attend la deuxième.
Dans quelques jours, on saura donc si Laval est présélectionné pour obtenir ce label Capitale de la Culture 2022. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Seu Jorge avec son titre Japonesa.
Japonesa, vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi. Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi. Japonesa, vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi.
E o sashi?
Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu tamagotchi.
Me dê carinho, dê beijinho com jeitinho e prepara mamadeira com um pouquinho de saquê. Tô aprendendo a comer de palitinho, vou largar a capoeira e praticar o karatê. Ó, minha queixa, sei que não posso me queixar, mas realmente eu fiquei sem dinheiro algum. Não tenho um real, você também não tem nenhuma moedinha de yen.
Yeah.
seu amado. Quero ser seu tamagotchi. O japonês, ah, vou dizer arigato. Oh, oh, oh. Ontem comi o seu sushi. Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado. Quero ser seu tamagotchi. Carinho, dê beijinho com jeitinho. Me prepara mamadeira com um pouquinho de saquê. Tô aprendendo a comer de palitinho. Vou largar a capoeira e praticar o karatê. Ó, minha queixa, sei que eu não posso me queixar, mas realmente eu fiquei sem dinheiro. Não tenho um real, você também não tem nenhuma moedinha de dinheiro. Não tenho um real, você também não tem nenhuma moedinha.
Toujours l'agité du local sur l'autre radio. Nous sommes lundi, c'est lecture, oui, mais c'est encore mieux avec les bons conseils de vos libraires. Un nouveau coup de cœur littéraire, en littérature jeunesse d'ailleurs, aujourd'hui, avec Fanny.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour, l'autre radio. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite série d'albums que j'adore. Il s'agit de la famille Quichon à l'école des loisirs. La famille Quichon, c'est un ensemble de petits livres qui présentent à chaque fois un enfant Quichon. Et figurez-vous qu'il y en a en tout 73. Donc ça promet. Pour l'instant, il y en a une dizaine de sorties. Anaïs Vaugelade, donc l'auteur et la dessinatrice, l'illustratrice, a un talent fou pour dessiner les petits cochons. Il faut dire qu'elle a un petit peu l'habitude, hein, parce qu'il y en a quand même 73. Et elle leur donne vie avec énormément d'humour. Alors, quand on prend les petits albums, ce sont des petits albums qui sont à peu près grands, comme la moitié d'un album classique. Donc, c'est sympa pour la bibliothèque. Et sur les pages de garde, on voit tous les petits cochons présentés. Chacun a un petit nom. Et vraiment, déjà, c'est très, très drôle. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté, l'album qui présente Gloria Quichon, la petite cochonne qui se pose plein de questions. En fait, Gloria se retrouve sur la cour de récréation à observer ses copains-copines se courir les uns après les autres. Et en fait, ce sont des jeux pour chercher un amoureux, une amoureuse. Mais elle, ça la questionne parce que c'est une petite qui réfléchit beaucoup. Et alors, elle va aller poser des questions à son papa, à sa maman. Bon, elle n'a pas complètement les réponses à ces questions, parce que quand même, comment être sûre de trouver son amoureux alors qu'il y a 7 milliards de cochons sur Terre ? Elle continue à se poser des questions, et puis on la suit un petit peu au quotidien. D'ailleurs, en aparté, on fait connaissance avec la dame de la cantine qui porte toujours des lunettes avec des gros cœurs. Et c'est un passage qui est très, très drôle. Et puis, Gloria va se retrouver sur la cour de récré, toujours à observer ses copains-copines. Et elle se fait aborder par un petit cochon qu'elle n'avait pas encore remarqué. Et finalement, elle va accepter de jouer avec lui. Et c'est peut-être le début d'une belle histoire. Voilà, alors franchement, je vous invite à découvrir ces petits albums de la famille Quichon. C'est à la fois drôle, mais il y a toujours une petite touche philosophique. C'est-à-dire que les enfants peuvent, vous pouvez leur lire à partir de 3-4 ans, mais même nous, adultes, quand on les lit, il y a toujours quelque chose qui nous touche, qui nous interpelle. Voilà, La famille Quichon à l'école des loisirs par Anaïs Vaugelade.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Montier, et sur l'autre radio.
À réécouter évidemment sur l'autreradio.fr et demain à 7h30 sur notre antenne pour les plus matinaux. Et c'est l'heure de notre rubrique Initiative avec toi Claire. On est lundi et c'est le moment d'envoyer vos CV pour cette spéciale emploi.
Et oui, on commence avec la ville de Laval qui recrute ses saisonniers de cet été. Plusieurs missions sont disponibles pour quelques mois. Animateur, agent d'entretien, manutentionnaire, agent d'espace vert, aide à domicile, guide conférencier, même assistant maître nageur et plein d'autres choses. Vous pouvez télécharger les formulaires de candidature dans la rubrique Actualité du site de la ville de Laval.
On poursuit Claire avec le groupe GIS.
Et oui, l'année 2020 a été plutôt bonne pour le groupe spécialisé dans la fabrication des équipements de soudage, chargeurs de batterie et des équipements de réparation de carrosserie. Une trentaine de postes sont à pourvoir à Saint-Berthevin et Changé, des postes aussi bien en marketing, en commercial, en montage, en logistique et surtout des tourneurs-fraiseurs. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le site internet gys.fr, rubrique société, puis recrutement.
Et on termine à Saint-Pierre-sur-Erve où on recherche des plombiers. Claire, avec l'entreprise BRE de la petite ville qui recherche donc deux plombiers.
C'est ça, l'entreprise BRE de la petite ville recherche deux plombiers pour un carnet de commandes en pleine croissance. L'entreprise est spécialisée en maintenance et en protection des réseaux d'eau et est appelée pour le groupement territorial hospitalier, la polyclinique du Maine ou encore l'aéroport de Laval en tram, en plus d'être appelée par des particuliers. Bref, une liste de clients qui s'allonge et moins de main-d'œuvre. Un CAP plomberie suffit pour candidater. Si vous êtes intéressé, contactez l'entreprise au 09 83 40 96 75.
Merci beaucoup Claire. Et si vous voulez être au courant de nos dernières actualités, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, nom du compte L'Autre Radio. Et vous voyez, on nous appelle même en pleine émission, hein, mais il n'y a pas de souci, on vous répondra tout à l'heure lorsque le direct sera terminé. Puisque c'est déjà la fin de notre émission L'Agité du Local, à suivre sur notre antenne à 19h Solénoïde, suivi à 20h de la discothèque de Chloé et Luna, et à 21h ce sera Eldorado. Et nous, on se retrouve demain à 12h15, je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview.
Voilà, c'est l'agité du local.